la répétition constante de ce motif en forme d'étoile à cinq branches dans l'architecture environnante et sur les quelques bas-reliefs muraux encore reconnaissables suggérait vaguement de sinistres implications qui ne pouvaient nous échapper et nous donnait un terrible soupçon de certitude subconsciente au sujet des entités primales qui avaient habité ce lieu maudit. Néanmoins, nos âmes de scientifiques et d'aventuriers n'avaient pas baissé les bras, et nous avons rempli mécaniquement notre programme consistant à prélever des échantillons des différents types de pierres qui se présentaient dans les maçonneries. Nous entendions en ramener un maximum afin de pouvoir en tirer des conclusions plus précises relativement à l'âge de ce lieu. Rien dans les hauts murs extérieurs ne semblait postérieur au Jurassique ou au Comanchien, et pas une seule pierre n'était plus récente que le Pliocène. Il était désormais avéré que nous errions au milieu d'une ville morte depuis au moins 500 000 ans, et probablement davantage. Tout en progressant dans ce labyrinthe de pierres crépusculaires, nous nous arrêtions devant chaque ouverture pour étudier les intérieurs et chercher d'éventuelles voies d'entrée. Certaines étaient hors de portée, d'autres ne s'ouvraient que sur des ruines obstruées par les glaces et aussi dépourvues de toits et dénudées que le rempart sur la colline. L'une d'entre elles, en apparence vaste et accueillante, s'ouvrait sur un abîme sans fond, n'offrant aucun moyen visible de descente. De temps en temps, nous avions l'occasion d'étudier le bois pétrifié d'un volet demeuré en place et nous étions impressionnés par l'incroyable ancienneté qu'on pouvait y lire. Ces objets provenaient de gymnospermes et de conifères mésozoïques, surtout des cycas du Crétacé, et de palmiers et d'angiospermes primitifs datant visiblement du tertiaire. Nous n'avons rien découvert de plus récent que le Pliocène. La position de ces volets, dont les bords témoignaient de la présence d'étranges charnières disparues depuis longtemps, semblait indiquer une variété d'usages, certains étant à l'extérieur et d'autres à l'intérieur des embrasures profondes. Ils étaient apparemment restés coincés, ce qui leur avait permis de survivre à la rouille qui avait dévoré leur fixation probablement métallique. À un moment donné, nous sommes tombés sur une rangée de fenêtres, sur les bords d'un cône colossal dont la pointe était intacte et dont la base avait la forme d'une étoile à cinq branches, qui débouchait sur une vaste salle bien conservée, avec un sol de pierre, mais elles étaient placées trop haut sur le mur pour que nous puissions descendre sans corde. Nous en avions une avec nous, mais à moins d'y être obligés, nous n'avions guère envie de tenter cette descente verticale de 6 ou 7 mètres, surtout dans un air aussi raréfié qui mettait nos cœurs à rude épreuve. Cette énorme salle devait être un hall ou un lieu de rassemblement quelconque, et nos torches électriques ont révélé des sculptures audacieuses, surprenantes et bien distinctes, arrangées autour des murs en larges bandes horizontales, séparées par des bandes d'arabesques conventionnelles de même largeur. Nous avons soigneusement noté l'emplacement de cet endroit, dans le but d'y retourner si nous ne rencontrions pas un intérieur plus facile d'accès. Cependant, nous avons fini par trouver exactement l'ouverture que nous cherchions. Une arche de 2 mètres de large et de 3 de haut marquait l'ancienne extrémité d'un pont aérien qui traversait autrefois une ruelle à environ 2 mètres au-dessus du niveau actuel de la couche de glace. Bien sûr, ces arches comprenaient beaucoup d'étages supérieurs, et dans ce cas précis, l'un de ceux-ci était toujours en place. Le bâtiment ainsi accessible se composait d'une série de terrasses rectangulaires sur notre gauche, face à l'ouest. De l'autre côté de l'allée, là où béait l'autre arche, se trouvait un cylindre décrépit, sans fenêtre, et avec un curieux renflement 3 mètres au-dessus de l'ouverture. Il faisait complètement noir à l'intérieur, et l'arche semblait s'ouvrir sur un puits de vide illimité. Les gravats accumulés facilitaient grandement l'accès au vaste bâtiment à notre gauche. Pourtant, nous avons hésité avant de saisir cette chance tant attendue, car bien que nous ayons pénétré dans cet amas de mystères archaïques, il nous fallait nous armer d'une résolution nouvelle pour nous aventurer à l'intérieur d'un bâtiment surgi intact d'un monde fabuleusement ancien, dont la nature hideuse nous devenait de plus en plus évidente. Néanmoins, nous avons fini par nous jeter à l'eau. Nous avons escaladé les décombres pour nous glisser dans l'ouverture béante. Le sol au-delà se composait de grandes dalles d'ardoise et semblait s'étendre le long d'un haut corridor aux murs ornés de sculptures. Au vu des nombreux passages voûtés qui s'ouvraient de part et d'autre du couloir, de la complexité du réseau de pièces qui devait constituer l'intérieur du bâtiment, nous avons décidé qu'il fallait commencer là notre jeu de pistes. Jusqu'à ce moment, l'usage de nos boussoles et de fréquents coups d'œil à la chaîne de montagnes derrière nous, entre les tours, nous avait suffi pour ne pas perdre notre chemin. Mais à partir de là, nous allions être obligés de recourir à un substitut artificiel. Nous avons donc déchiré notre stock de papier en morceaux de la taille convenable, les avons mis dans un sac porté par Danforth et nous sommes préparés à les utiliser avec autant de parcimonie que notre sécurité nous le permettait. Cette méthode nous éviterait probablement de nous perdre, vu qu'il ne semblait pas y avoir de courant d'air à l'intérieur du bâtiment. Si cela changeait, ou si nous tombions à court de papier, nous pourrions toujours nous rabattre sur le processus plus fastidieux consistant à graver des marques sur les murs. Les passages fréquents entre les bâtiments donnaient à penser que nous pourrions aller de l'un à l'autre en empruntant les ponts enfouis sous la glace, sauf aux endroits où ils avaient été détruits par des effondrements et des mouvements géologiques, car la glaciation semblait avoir épargné l'intérieur de ces constructions massives. Là où la glace était transparente, nous n'avions vu que des fenêtres closes, comme si la ville avait été abandonnée dans cet état jusqu'à ce que la couche de glace vienne figer pour l'éternité toutes les zones les plus basses. En fait, on avait la curieuse impression que cet endroit avait été délibérément condamné et déserté il y a des millénaires, plutôt que victime d'une catastrophe subite ou même d'un long processus de dégradation. La venue des glaces avait-elle été prévue longtemps à l'avance? Et une population sans nom avait-elle quitté en masse ce lieu condamné pour se chercher un autre domaine? L'étude des conditions physiques précises qui avaient présidé à la formation de la couche de glace devrait attendre. De toute évidence, elle ne s'était pas mise en place en un jour. Peut-être que la pression de la neige accumulée en était responsable, et peut-être qu'une crue subite du fleuve ou la destruction d'un barrage glaciaire au cœur de la Grande Chaîne avait contribué à créer cet état de fait. En ce qui concernait cet endroit, on pouvait tout imaginer.